chapitre 12.
Marc chapitre 12. Et le message va porter sur les versets 41 à 44. Mais je vais commencer la lecture un tout petit peu plus tôt, au verset 38. Donc Marc 12, verset 38. Et on est après toute cette section où on a vu Jésus s'adresser aux chefs religieux. Il y a eu toute cette discussion entre Jésus et les chefs religieux. Et puis, à la fin de cette discussion, Jésus se tourne vers la foule qui est là. Et voilà ce qu'on lit en Marc 12, 38. Jésus leur disait dans son enseignement: attention aux spécialistes de la loi qui aiment se promener en longue robe et être salués sur les places publiques. Ils recherchent les sièges d'honneur dans les synagogues et les meilleures places dans les festins. Ils dépouillent les veuves de leurs biens tout en faisant pour l'apparence de longues prières. Ils seront jugés plus sévèrement. Et voilà le passage qui sera l'objet de la prédication. Jésus était assis vis-à-vis du tronc et regardait comment la foule y mettait de l'argent. De nombreux riches mettaient beaucoup. Une pauvre veuve vint aussi. Elle y mit deux petites pièces, ce qui était un quart de sou. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit: je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus que tous ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont pris de leur superflu pour mettre dans le tronc, tandis qu'elle, elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Voilà jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. C'est le récit d'un don sacrificiel de cette veuve, un don sacrificiel qui nous parle en fait aussi par avance du don sacrificiel de Christ à la croix. Et ce don sacrificiel, on va se le rappeler particulièrement tout à l'heure en prenant le repas du Seigneur ensemble, la scène. Le don sacrificiel de Christ qui verse son sang à la croix pour des pécheurs. Et avant que David vienne, donc je propose qu'on chante encore un chant qui est aussi déjà un chant pour nous préparer à prendre ce repas tout à l'heure. Un chant qui nous rappelle le sacrifice de Christ, qui est un chant de consécration aussi.
Voyez donc, gardez devant vous l'évangile de Marc chapitre 12. Et donc c'est bien que Joël ait lu le contexte, parce que en fait le sermon se porte sur le verset 38 à 44. Il faut que quand nous lisons la Bible, nous n'isolions jamais un passage de l'ensemble. Parfois, on entend des messages, des prédications sur ce passage, et la veuve est isolée de l'évangile de Marc, de l'histoire que Marc veut nous raconter, et elle est plaquée là, comme s'il n'y a aucun contexte, et on vous donne un message sur la générosité. Je vous assure que ce n'est pas pour ça que ce passage se trouve dans l'Écriture. C'est une manière de comprendre la Bible qui on appelle le moralisme, et donc on enlève Christ et sa rédemption du centre, et on met David ou Daniel ou Abraham qu'on doit imiter, ou la veuve, soyons comme elle. Et le message du passage, c'est soyons comme telle personne. Donc ça, c'est le moralisme. Mais la Bible n'enseigne pas de moralisme. Et si nous voulons comprendre pourquoi Marc, sous l'inspiration de Dieu, a mis ce petit incident qui se passe en deux secondes à la fin de son évangile, nous devons comprendre que Marc tâche de nous dire deux choses tout au travers de son évangile. Il veut nous faire comprendre que le Fils de Dieu venu du ciel est venu pour apporter un nouvel ordre, un nouveau royaume, une existence, un peuple qui existe d'une manière céleste et différente et qui a une relation avec Dieu qui est complètement autre. Ça, c'est la première chose que Marc veut nous dire. Et il nous raconte les miracles de Jésus. Pourquoi? Parce que les miracles de Jésus sont la manifestation de la puissance de ce nouveau royaume qui vient, n'est-ce pas? Dans les miracles, on voit qu'il y a quelque chose du ciel qui est venu sur terre. Marc nous raconte les paraboles de Jésus. Et toutes les paraboles commencent comme ceci. Le royaume de Dieu est comme. Et dans les paraboles, Jésus explique la nature de cet nouvel ordre, ce nouveau royaume qu'il apporte. Et la mort et la résurrection de Jésus, c'est par elle que Jésus va inaugurer et faire venir ce royaume. Mais il y a une deuxième ligne, c'est comme des rails d'un train. Il y a cette ligne que Marc veut nous montrer, Jésus vient apporter ce nouveau royaume. Mais l'autre ligne, c'est que l'ancien ordre est condamné et tombe sur le châtiment de Dieu et va maintenant disparaître. Et l'échec d'Israël face à la loi mosaïque et ce qu'elle demande est partout dans l'évangile de Marc. Et nous allons voir comment la veuve est la preuve palpable, comme un signe que l'ancien ordre doit disparaître. Elle est sous le coup d'une condamnation finale. Et nous allons voir comment dans la veuve aussi est préfiguré le nouvel ordre, une autre manière de vivre. Et nous allons voir que Marc relève le fait que Jésus contraste la veuve et le judaïsme des scribes. D'accord? C'est ça qui est en train de se passer. Et c'est pour ça que Joël a fait bien de lire la petite partie avant, parce que nous allons voir que Jésus finit de parler du mal des scribes envers des veuves, et voilà une veuve qui en est la preuve. Bien, donc nous allons voir que cette veuve est effectivement un exemple de générosité. Mais nous ne pouvons le comprendre que si nous mettons cette réalité au sein de l'évangile qui est plus grand qu'elle et son acte. Ok? Donc moi, je veux vous parler du Christ aujourd'hui et du royaume de Dieu. Bien, j'ai 3 points. Le premier est très facile, mais il nous le faut parce que sinon on ne va pas aller loin. Comprenons un peu la situation des veuves dans l'Antiquité. Sinon, on va rien... Est-ce que tu peux fermer la fenêtre, s'il te plaît? Si vous avez chaud, vous pouvez toujours enclencher le... Oui. C'est juste le bruit de l'autoroute qui essaye. Donc, essayons de nous mettre là, ce jour, quand tout cela s'est passé. Et pour le faire, il faut comprendre le sort et le problème des veuves. Dans l'Antiquité, être veuve, c'était un désastre. C'était un péril de vie et de mort. Il n'y avait pas de sécurité sociale. Et la source de vie, de revenus de la veuve, de la femme, c'est son mari. Et quand il disparaît, elle est exposée au plus grand péril. Dites-moi, comment va-t-elle vivre? Surtout si elle n'a pas d'enfant ou si ses enfants ne prennent pas soin d'elle. C'est une situation très grave. Et aussi, c'est une situation dans l'Antiquité et dans la culture juive qui porte de l'opprobre. On parle dans Isaïe de l'opprobre de ton veuvage. Une femme maintenant délaissée, sans personne, un objet pitoyable, une femme pauvre, dénuée, réduite à mendier, à dépendre des autres. C'est ça la vie d'une veuve. Il y a une sorte d'humiliation qui est présente dans la veuve de l'Antiquité. C'est pour cela que nous devons aussi comprendre, avant d'arriver au temple ce jour-là, que Dieu avait placé en Israël, dans la loi mosaïque, beaucoup de préceptes et de consignes vis-à-vis des veuves. L'avez-vous remarqué en lisant l'Ancien Testament? On ne peut pas louper. Par exemple, dans le livre de Deutéronome, Dieu dit ceci: « Tu ne porteras point atteinte aux droits de l'étranger, de l'orphelin, et tu ne prendras point en gage le vêtement de la veuve. » Tu ne peux pas prendre le vêtement d'une veuve pour assurer qu'elle va payer une dette. Pas une veuve, non. Quand tu moissonneras ton champ et que tu auras oublié une gerbe dans le champ, commandement intéressant, tu oublies une gerbe, tu ne retourneras pas le prendre. Pourquoi les veuves? Elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans ton travail, dans tout le travail de tes mains, à cause de ton comportement envers la veuve, l'orphelin et l'étranger. Deuxième passage. Au bout de 3 ans en Israël, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendra le lévite, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes. Et ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tous les travaux de tes mains. La bénédiction dépend de ton comportement envers les veuves, entre autres. Tu n'affligeras point la veuve ni l'orphelin si tu les affliges, et qu'ils viennent à moi. J'entendrai leur cri, ma colère s'enflammera, et je vous détruirai par l'épée. Malédiction pour un mauvais comportement envers les veuves et les orphelins. Donc Dieu promet des bénédictions si tu traites bien la veuve et des malédictions si tu la traites mal. Maudit, dit Deutéronome, soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger, de l'orphelin et la veuve, et tout le peuple dira Amen. Wow. La veuve a vraiment une place assez spéciale. En fait, je dirais que le comportement d'Israël envers la veuve est une miniature de son obéissance à toute la loi. N'est-ce pas? Parce que pour toute la loi, Dieu a dit, si tu obéis à la loi, je te bénis dans les choses terrestres. On ne parle pas du salut éternel, ça c'est par la grâce et par la foi. Mais tu n'auras pas de fausse couche parmi tes femmes, tu auras des bonnes pluies, etc. Tu auras des bénédictions terrestres si tu obéis. Et si tu désobéis, tu auras des malédictions. Mais le traitement de la veuve est comme en capsule une miniature d'Israël face à la loi. On peut oublier toutes les autres choses et regarder juste Israël en face de la veuve et savoir si elle est obéissante à la loi. Vous pouvez vous demander, mais pourquoi toute cette importance à ce commandement de la loi, à ce besoin de prendre soin de la veuve et de la défendre? Je pense que une des raisons, c'est parce que dans la veuve, nous avons, et dans l'attitude de Dieu envers la veuve et l'orphelin et l'étranger, nous avons le cœur de Dieu qui se révèle et qui s'exprime d'une manière très, très lucide. Regardez ceci. Souvent dans l'Ancien Testament, Dieu se définit, s'identifie par rapport à son cœur envers la veuve. Regardez bien. Chantez à Dieu, célébrez son nom, frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom. Réjouissez-vous devant lui, le Père, et puis il va s'identifier, quel Dieu est-il? Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Si vous auriez voulu définir Dieu, le Créateur, qu'est-ce que vous auriez pris? Le Créateur, il a fait les étoiles, n'est-ce pas, peut-être? Ou le juge qui punit les méchants. Mais Dieu aime se définir par rapport à ce qu'il est et son attitude envers l'orphelin et la veuve. Pourquoi est-ce qu'il aime se définir comme cela? Parce que là, nous arrivons au fond de ce cœur d'amour, de miséricorde, de compassion, de la grâce de Dieu pour celle ou ceux qui ne peuvent rien donner. Pour la personne qui ne peut rien contribuer, qui n'a que sa nécessité, qui n'a que son dénuement. Et là, la grande pitié de notre Créateur, ce qu'il est au fond le plus, ça se montre là, très fortement. Nous pouvons bien comprendre donc, et là je finis ce premier point, pourquoi cet arrière-plan vis-à-vis des veuves est tellement important. Parce que, mettez-vous à la place d'Israël. Israël devait représenter Dieu aux autres nations, n'est-ce pas? En regardant Israël et le comportement des fils de Dieu, Israël, les nations devaient pouvoir comprendre comment il est Dieu, le vrai Dieu. Eh bien, si on vient auprès d'Israël et on voit des gens qui sont pleins de pitié pour ceux qui n'ont rien, pour les gens que les autres nations négligent et ignorent et passent à côté, ils disent « Oh, quelle pauvre dame !» N'est-ce pas? Mais si en Israël, on a justement pitié d'elle, on prend soin d'elle, on la défend, on la secourt, on voit « Ah !» Le Dieu d'Israël doit être un Dieu qui est comme ça. Ah, alors ça, c'est formidable. On n'a jamais entendu parler d'un Dieu comme ça. N'est-ce pas? Mais le problème, c'est que nous allons voir maintenant que tout le contraire s'est passé. Quand on vient en Israël, dans le premier siècle, qu'est-ce qu'on trouve? Et quel message est-ce que ça donne vis-à-vis de Dieu? Ça nous amène logiquement au deuxième point. Nous avons vu la situation des veuves, et maintenant nous avons deux points simples au sujet de notre passage. Le premier, c'est que la veuve dans le temple expose l'iniquité d'Israël sous l'ancien ordre mosaïque. Elle expose son iniquité. Comment? De deux manières. Première manière, simplement parce qu'elle est là. Dénuée, destituée, dans une situation horrible. Parce que Jésus dit qu'elle donne deux leptons. Ça, c'est les pièces faites en cuillère, les pièces les plus petites en Israël, qui ensemble, les deux, auraient fait un quart d'un centime. Maintenant, nous avons maintenant des jolies pièces d'euros, n'est-ce pas? Avez-vous vu une pièce d'un centime d'euro? C'est très petit ce truc. C'est vraiment minuscule. Et mettez-vous à la place de la veuve. C'est tout ce que vous avez pour vivre. Ça alors, ça n'aurait jamais dû arriver en Israël. Le pays du Dieu qui est le Père, des orphelins et des veuves. Comment? Avec tous ces préceptes de la loi qui reflètent Dieu et qui dit « Je veux prendre soin des veuves! Faites-le pour moi, vous êtes mes serviteurs! » Et la voilà ce jour qui arrive au temple dans une situation horrible. Horrible. Et pour tout comprendre, nous devons remonter et nous rappeler que avant qu'elle se pointe pour donner son don, Jésus vient de dire une chose à la foule, au public. Et il a dit, faites attention aux scribes, gardez-vous des scribes qui dévorent des maisons de veuves. Et nous avons donc dans son existence, et voilà une veuve qui vient, le produit de leur religion, le produit du bon travail des scribes, une femme dévorée. Voilà ce que l'ancien ordre mosaïque dans les mains d'Israël a produit. Et le Seigneur, son cœur est déchiré. Bien, voilà, sa simple existence condamne Israël. Mais deuxièmement, son don expose l'iniquité d'Israël. Parce que Jésus, quand il arrive, et j'imagine moi le repos de l'âme, le répit que Jésus a enfin, parce que on conteste contre lui, et on coupe les cheveux en quatre, et il n'y a aucune vraie pitié, toutes ces questions sont des rien. Et puis voilà, une dame dont le cœur est vraiment pieuse, qui aime son Créateur, qui croit, arrive, une pauvre dame, et elle donne tout ce qu'elle a pour vivre. Et j'imagine le Seigneur là, n'est-ce pas? Oh, qu'il devait prendre plaisir là en ce moment. Quel répit après tout ce que je viens de vivre au temple. Et il dit, il appelle les disciples, parce que c'est important ce qui se passe. Il y a une leçon là. Et il dit, cette pauvre veuve a donné plus que tous les autres. Plus qu'Israël. Devant la loi, une seule veuve, par son don, met à nu le manque de vrai amour de tout un pays. Et j'imagine que c'était embarrassant pour les gens, n'est-ce pas, d'entendre ces paroles. Cette veuve dédaignée par tout le monde, qui n'a rien donné alors que les riches, défilé, je vous assure. En fait, il y a même une loi qu'on a trouvée dans les écrits des rabbins vers le 1er siècle qui empêchait les juifs de donner au-delà d'une certaine somme. Parce qu'ils aimaient bien montrer. Et voilà, cette pauvre dame, par ses deux leptons, elle et le jugement de Jésus, plus que tous les autres, le don des autres est abaissé à terre. Donc, nous comprenons que cette deuxième ligne du train, que Marc veut nous faire comprendre, l'ordre mosaïque doit disparaître. La veuve en est la preuve palpable. Voilà le fruit des scribes. Voilà une dame qui se passe toute la religion juive. Bien sûr, à part certaines exceptions qui sont vraiment nées de nouveau. Nous abordons le dernier point. Nous voyons que donc cette veuve s'affiche là pour Jésus comme une preuve que la religion de la loi doit donner place à la religion de la foi dans le Messie. Mais le dernier point, c'est que la veuve révèle aussi le caractère du nouvel ordre qui doit venir. Un nouvel ordre où tout le peuple aura son attitude à elle. Nous voyons que, et là nous allons vraiment entrer dans le cœur du passage, nous voyons que Jésus, par ses propos au sujet des scribes, juste avant que la veuve arrive, établit un contraste en trois points qui est parfait entre les deux. Donc nous allons considérer ce contraste. Et si vous avez loupé ce contraste, vous n'avez pas compris la veuve. Donc il faut bien mettre les versets 41 à 44 avec les versets 38 à 40. Donc, et je considère maintenant trois points. Et je vais regarder le scribe et la veuve. Selon les propos de Jésus. Premièrement, quelle est la direction dans laquelle chacun se dirige spirituellement? Quelle est la direction? Nous regardons le scribe d'abord et nous lisons au verset 38 que le scribe va dans cette direction. C'est-à-dire, toute sa religion est un effort de s'élever. De s'élever. Regardez. Il leur disait dans son enseignement, « Gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue et être salués dans les places publiques, donc importance, qui recherchent les premiers sièges, qui les recherchent. C'est leur effort, c'est leur direction. Chacun de vous a une direction de l'âme, une direction spirituelle dans laquelle vous allez. Et leur direction, c'est y rechercher à être plus grand, plus élevé. » Plus important, à être quelque chose. Ils font pour l'apparence de longues prières, etc. Donc, ça c'est clair pour les scribes. Maintenant arrive la veuve. Et nous voyons en elle exactement, précisément et spécifiquement le contraire. Ce n'est pas un effort de s'élever, c'est une acceptation de prendre la place la plus petite. Mais vous n'allez pas le saisir si vous ne comprenez pas ce qui se passe au temple dans la cour des dames. Dans le temple, à l'époque, il y avait ce qu'on appelait la cour des dames. Les femmes et les hommes avaient le droit d'aller dans cette partie. De l'enceinte du temple. Alors cette partie était grande. Elle pouvait contenir 15 000 personnes quand même. D'accord? C'est une grande cour. Les dames peuvent y aller, les hommes peuvent y aller. Mais les dames ne peuvent pas aller plus loin, vers les parties plus centrales du temple. C'est là qu'elles doivent s'arrêter. Et c'était là, sur des colonnes, autour de ces cours, que se trouvaient, je pense que c'était 13 ou 15, troncs, en forme de trompette, avec une grande ouverture, qui descendait, qui rétrécissait. Et ces récipients étaient pour les dons des Juifs. Et un des auteurs juifs nous dit que les juifs venaient, ils devaient annoncer à haute voix la somme qu'ils allaient déposer dans le tronc. Ok? Ça, c'était pas la loi mosaïque qui disait de faire ça. Alors, rappelez-vous, Jésus dit que votre main main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite quand tu... Lui, il est contre cela. Mais les juifs et les scribes avaient bâti une religion dans le but de s'élever. Il y a bien des années, j'ai passé un été dans un quartier des Noirs américains. Je vivais avec une dame noire, chrétienne formidable, qui est devenue ma deuxième maman. Et je fréquentais une église qui était entièrement noire, sauf pour moi et deux autres blancs. Et c'était un quartier troublé, plein de drogue, plein de difficultés. Et nous allions témoigner dans le quartier les après-midi. Mais cette église avait une facette intéressante. Enfin, pas intéressant pour moi dans le sens positif. Parce que au moment, et j'ai été vraiment béni dans cette église, hein, j'ai vraiment reçu des choses formidables par les sermons et les chants, mais au moment de donner, ça se passait toujours de la même manière. Le pasteur assistant se levait, et il prenait sa Bible, et il prenait ce passage dans le livre de Malachie, « Est-ce qu'un homme volera Dieu ?» Mais comment est-ce que nous t'avons volé? Vous m'avez volé en négligeant de payer les dîmes. Et citer ce passage alors que l'organiste jouait une mélodie qui est très émouvante et c'était vraiment impressionnant. Et ensuite, pendant que ça se passait, il demandait d'abord à ceux qui donnaient le dîme de se lever et de venir et de mettre leur dîme devant tout le monde dans une grande maison, dans une grande troupe. Et donc, tous ceux qui donnaient 10% de leurs revenus venaient devant tout le monde pendant la musique et pendant que le jugement était annoncé. Et après cela, il disait, maintenant vous autres qui donnez moins que le dîme, venez donner vos dons. Maintenant, vous allez comprendre ce qui se passe au temple ce jour-là. Parce que cette dame doit venir, elle doit annoncer ce qu'elle donne. Est-ce qu'elle vient pour s'élever? Est-ce que l'orientation de sa vie spirituelle, c'est « je fais pour montrer mon mérite, pour amasser du mérite, pour être à la hauteur, pour montrer que je suis bonne ?» Non. Pour faire cet acte, elle doit s'abaisser. Au fond de son acte n'est pas une élévation, mais un abaissement profond. Elle prend la place de celle qui n'a rien. Elle prend la place de celle qui, au vu des hommes, ne fait rien, ne produit rien, n'aide en rien. Et elle prend volontairement et de tout cœur, parce qu'elle donne tout ce qu'elle a pour vivre. Donc ça, c'est la direction des scribes pour monter et la veuve pour descendre. Et tout cela est très clair. Deuxième point. Le cœur de leur religion, l'un et l'autre, c'est-à-dire le comportement en lequel ils pensent trouver la vie. Et c'est lié au premier point, mais vous allez voir la nuance. Les scribes. Les scribes, pour les scribes, leur religion, c'était une affaire de produire. S'élever, oui, la direction. Produire, accomplir, c'est le cœur de ce qu'il doit faire. Si tu veux être béni, si tu veux que Dieu te regarde, si tu veux être un bon juif, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire. Il faut faire. Et nous voyons que Jésus dit cela, évoque cela dans ses propos, dans le verset 40. Il dit qu'ils font pour l'apparence de longues prières. Et dans le passage parallèle où Matthieu, dans le chapitre 23, donne tout un chapitre qui détaille tout ce que Jésus avait dit en ce moment, parce qu'il avait dit des malheureux scribes, malheureux scribes, malheureux scribes. Il avait décrit toute leur religiosité. Et voilà ce qu'il avait dit. Jésus dit au sujet des scribes et du principe au cœur de leur religion, « Vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. » Vous faites beaucoup. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la gêne deux fois plus que vous. Ou bien Jésus dit, « Vous payez la dîme de la menthe, de l'aneth et du cumin. » Même vos épices, vous en prenez certains et vous les amenez. Vous êtes vraiment méticuleux, vous faites beaucoup. Mais vous oubliez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde, la fidélité. Donc ces scribes pensaient que la manière de faire, d'arriver à Dieu, à sa bénédiction, à son amour, c'était... que moi je dois être à la hauteur, moi je dois faire, moi. Et donc forcément ça va devenir égoïste, parce que c'est centré au sujet de moi. C'est ma bonté qui est le centre de ma religion. Ah, pas la bonté de Dieu envers moi? Non, c'est ma bonté, c'est ce que je fais. Voilà pour les scribes. La veuve. Quel était au cœur de où est-ce qu'elle voulait penser trouver la vie en faisant quoi? Nous voyons que elle n'est pas en train d'obéir à une loi en donnant tout ce qu'elle a pour vivre. Il n'y a aucune loi dans l'Ancien Testament qui l'oblige à faire cela, à donner quelque chose dans son état destitué. Elle n'est pas en train de répondre à une loi pour dire « Je suis à la hauteur !» Parce que aucune obligation pour elle de faire cela. Qu'est-ce qui la pousse à la faire si la loi ne lui demande rien? Son action ne vient pas de la loi et un désir de produire, mais de la foi et le fait qu'elle a reçu. Je vais vous montrer ce que je veux dire. La Bible nous parle des veuves et nous explique le principe central de leur vie lorsqu'elles sont vraiment veuves, selon Dieu. Paul le dit comme ceci. Celle qui est véritablement veuve, 1 Timothée 5:5, et qui est demeurée dans l'isolement, met son espérance en Dieu. Ça, alors, je le comprends. Elle est dénuée, cette veuve au temple ce jour-là, elle n'a rien, et Dieu l'a appris à travers son destitution, son dénouement, de mettre son espoir, non pas en elle-même et ce qu'elle peut produire, mais en la bonté, la miséricorde, la pitié de Dieu. Si nous allons au livre de Ruth, car il y a un livre qui parle de veuves, tout le livre, c'est une histoire au sujet de deux veuves dénuées et le centre de leur vie. Et quand Boaz rencontre donc Ruth la première fois, il dit que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. La veuve, selon Dieu, c'est celle qui a appris par son dénuement à vivre non pas par la loi en produisant pour être quelque chose, mais celle qui a appris à espérer en Dieu et sa grâce et sa miséricorde. C'est la personne dépendante par excellence. C'est la personne de foi par excellence. Parce qu'elle est poussée, elle est mise contre le mur, où Dieu l'apprend à vivre non pas de ce qu'elle peut donner, produire, mais ce qu'elle a reçu. Et donc, je vous soumets que cette veuve, quand elle fait cet acte spectaculaire, et c'est vraiment incompréhensible. Si vous prenez cet acte comme « Oh, c'est l'exemple pour nous, nous devons donner tout ce que nous avons pour vivre », vous n'avez rien compris. Il n'y a aucune obligation, il n'y a pas de loi comme ça. Ce n'est pas un exemple de l'obligation. C'est un exemple des exploits que seule la foi peut produire. Et ce que nous voyons, c'est un débordement. C'est un débordement. La foi va au-delà, n'est-ce pas? Et cette dame, apparemment, comme la veuve à la naissance de Jésus, il y a une veuve dans le temple encore à la fin de sa vie. Et les deux, croyant dans le Messie, se réjouissant qu'il est venu, et je crois qu'elle savait que c'est Jésus qui était là depuis une semaine, à la fête, où tout le monde est là, elle a entendu comme les autres ce que Jésus faisait. Et quand Marc dit, la foule prenait plaisir à ses paroles, j'en suis sûr qu'elle était là. Et dans le débordement de sa joie, il est venu celui en qui j'ai appris à espérer. Elle a fait une bêtise de foi. Elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je ne sais pas. Mais j'étais poussé par l'esprit à faire cela. Dieu prendra soin de moi. C'est ça que nous voyons dans cette femme. Je veux juste vous le confirmer parce que c'est un peu spéculatif, n'est-ce pas? Sauf que, nous avons dans 2 Corinthiens chapitre 8 une explication du principe qui est derrière quelqu'un qui donne alors qu'il est pauvre et qui donne plus qu'il ne peut. Regardez bien, écoutez bien si ça ne correspond pas exactement à la veuve. 2 Corinthiens 8, 1 à 3. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Écoutez bien. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde, mises ensemble, ont produit une abondance de riches libéralités de leur part, ils ont donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à donner au-delà de leurs moyens un acte spectaculaire? Débordement de joie au milieu d'une pauvreté profonde. Quand tu te réfugies sous les ailes de l'éternel Dieu, le Père des veuves et des orphelins, tu te retrouves tellement béni, aimé, chéri, que tu veux donner tout ce que tu as à lui. Ça, c'est un nouvel ordre. C'est pas comme l'Israël du premier siècle. Seulement Jésus, par son salut, peut produire une telle joie. Je crois que je vais m'arrêter là et juste conclure parce que vous avez compris, n'est-ce pas? Nous devons quand même nous poser la question. Est-ce que je suis un peu scribe ou est-ce que je suis beaucoup veuve? Ce qui m'étonne, c'est que Isaïe a quand même annoncé qu'avec le Messie viendrait cette nouvelle ordre où tout le monde aurait l'identité d'une veuve délivrée, tous les croyants. Écoutez bien, ne crains pas, car tu seras point confondu. Il parle de la nouvelle Israël. Ne rougis pas parce que tu ne seras pas déshonoré, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage, car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, il est ton Rédempteur, le Dieu de toute la terre. Donc le nouvel ordre vient, mais le nouvel ordre fait de toi et moi des personnes qui adoptent la même attitude que la veuve. Parce que spirituellement, vous êtes comme ça. Vous êtes veuve, vous êtes veuf. C'est-à-dire, vous n'avez rien à contribuer à Dieu. Spirituellement, vous êtes dénué par le péché, par votre culpabilité. Vous ne pouvez pas dire « je suis quelque chose, regardez-moi ». Le vrai chrétien se retrouve comme la veuve, celle ou celui qui n'a absolument rien. Et dans la joie, n'est pas en ce qu'il peut produire, mais en ce qu'il a été chéri et sauvé et délivré par le Père des orphelins et des veuves. C'est ça que nous voulons, c'est là où nous voulons tous rester. Mais je me demande si vous et moi, nous comprenons que tous les jours, nous sommes face à cela, profondément, dans la vie chrétienne que nous vivons, que moi je vis, que vous vivez. Est-ce que souvent, vous n'êtes pas en train d'essayer d'être un peu scribe, d'être simplement à la hauteur, un bon chrétien, une bonne chrétienne? Est-ce que c'est un peu l'orientation? Ou bien, est-ce que vous pouvez dire que de plus en plus, ça c'est fini. Spirituellement, je suis comme la veuve. Et si je produis, et je produis, c'est dans l'élan de la foi et la gratitude. Parce que, essentiellement, je viens me réfugier tous les jours sous les ailes de l'Éternel, mon Sauveur. Que le Seigneur nous aide à prendre cette place bénie, hein? Imaginez que la place de la veuve soit la place bénie. Mais c'est vraiment la réalité. Et je pense que si nous prenons cette place, nous aussi, nous allons produire des choses parfois spectaculaires en réponse à Dieu, en donnant tout ce que nous avons. Elle avait deux pièces, elle aurait pu garder une. Intéressant, n'est-ce pas? Mais tout ce qu'elle avait pour vivre, c'est spectaculaire. Je crois que nous allons chanter. Oui. 130, je crois. 130.